Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous pour le 10h midi, dernière émission de la saison, mais nous reviendrons en septembre. Normalement, si tout va bien, on va prendre quelques jours de congé. C'est, vous l'avez entendu dans la première heure, Vincent Ferniaud qui va prendre le relais pour vous emmener, vous prendre par la main et vous balader partout en France. Aujourd'hui, pour cette dernière émission, Najwa El Haïté, bonjour. Vous êtes vice-présidente de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République. Nicolas Corato, président fondateur du Think Tank Place de la République.
Bonjour, bonjour Valérie.
Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de la revue Putsch, le nouveau média franc-tireur, et Arnaud Benedetti, professeur bonjour. À la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et vous avez publié Le progrès est-il dangereux aux éditions Humain Science. Et je rappelle toujours avec délectation le titre de votre premier livre, Le coup de com' permanent.
Voilà, bonjour et merci Valérie.
Il faut un tome 2 là, non?
On va y réfléchir.
Le coup de com' permanent qui continue, voilà. on va parler de beaucoup de sujets. La seconde vague du coronavirus, sommes-nous prêts? Sommes-nous assez prudents? On a l'impression qu'en France, on ne prend pas forcément la mesure des choses quand on voit que l'Italie, l'Espagne reconfinent, qu'il y a des cas qui sont en augmentation. On va parler de cette réforme des retraites que le gouvernement veut relancer à tout prix. Et puis, comment faire évoluer le maintien de l'ordre en France, comme le réclame Jacques Toubon, allié peut-être avec ce hashtag sur les réseaux sociaux stop à la racaille tue, pardon, en référence évidemment à ce chauffeur de bus qui a été assassiné, battu à mort. On va y revenir. Commençons par notre tour de table avec vous. Commençons avec vous, Najwa, pour une alors pour vous c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, mon coup de cœur aujourd'hui concerne la restauration à l'identique de la flèche de Notre-Dame. Donc, souvenez-vous cette terrible date, le 15 avril 2019, où s'effondrait sous nos yeux, mais incrédules, la fameuse flèche inaugurée en août 1859. Donc, la question d'une reconstruction à l'identique de la flèche a fait débat pendant plusieurs mois. Alors, vous aviez les partisans d'une reconstruction selon les plans détaillés laissés par l'architecte Viollet-le-Duc, et ceux souhaitant inclure un geste architectural contemporain en lançant notamment un concours. Je peux vous dire qu'on l'a échappé belle. Je vous rappelle que quelques-uns des projets étaient plutôt excentriques et farfelus, ces projets étaient présentés par quelques architectes, designers du monde entier. Une flèche en cristal baccarat, des faisceaux lumineux sur cette flèche, une flèche construite avec des matériaux récupérés, j'en passe et des meilleurs. Donc Emmanuel Macron hier a tranché. Désormais, sa conviction, c'est qu'il faut restaurer la cathédrale et sa flèche à l'identique. Et c'est une très bonne nouvelle. J'aimerais terminer, Valérie, en soulignant que la vraie leçon de cet bien triste épisode, c'est que nous n'avons pas été capables de protéger Notre-Dame. J'espère qu'on en tirera toutes les leçons et que la prochaine fois, on sera en mesure de garantir la protection de l'ensemble de nos monuments qui sont des joyaux historiques et architecturaux.
Oui, absolument. Écoutez, vous en pensez quoi? Moi, j'y suis plutôt favorable aussi. Je trouve que c'est une bonne décision. Je ne suis pas très progressiste en matière d'architecture. Arnaud Benedetti?
Oui, c'est une bonne décision. Mais je crois qu'en plus, ça se heurtait quand même à une difficulté, j'allais dire, d'ordre juridique, hein, qu'avaient soulevé des responsables, notamment de la direction du patrimoine. Il y a un droit moral qui est celui du créateur et dont les héritiers sont d'une certaine manière garants. Et donc il y avait aussi une difficulté d'ordre juridique qui se posait pour modifier, si vous voulez, la question de cette flèche. Mais en l'occurrence, je crois que c'est une bonne décision qui a été prise.
Oui. Non, Nicolas Corato.
Ouais,
qui est toujours un petit peu plus iconoclaste.
Voilà, moi je rappelle simplement un peu l'histoire de Notre-Dame. C'est un monument patchwork qui a été construit en plus d'un siècle et demi. Je rappelle que la flèche de Viollet-le-Duc avait fait scandale à l'époque quand il l'avait posée sur Notre-Dame, ne correspondait pas du tout au clocheton d'origine. Donc c'était en soi déjà un geste architectural très anachronique et jugé comme tel par ses contemporains, auxquels on s'est habitué. Ce monument, il a toujours évolué avec les hommes, qui l'ont aussi amendé, qui ont additionné, qui ont ajouté des éléments, parfois effectivement avec beaucoup d'anachronisme. Donc moi, j'étais pas nécessairement sur un point de vue conservateur, j'ai pas de difficulté avec le fait qu'on construise à l'identique. Je dis simplement que ça ne correspond pas à l'histoire de Notre-Dame, qui est une histoire d'amendement au fil des siècles. Cette cathédrale vit avec les hommes, vit avec leur temps, et les hommes ont toujours ajouté à cette cathédrale. Donc il faut aussi reconnaître cette histoire, qui est une histoire d'ajout au fil du temps. Mais je n'ai pas de difficulté avec la décision.
Matteo.
Moi, à l'inverse, je suis très classique, étant en plus italien, donc j'aime l'héritage du passé, tout en regardant au futur. Mais effectivement, Notre-Dame, c'est Notre-Dame. Et ça appartient un peu aussi à tout le reste, je dis un mot scandaleux, chrétienté, parce que ce n'est pas seulement c'est l'un des monuments qui ont marqué la diffusion du christianisme dans le monde et qui ont été un symbole qui d'ailleurs a été aussi véhiculé dans la culture grâce notamment au musical qu'on a tous vu.
Oui, juste un mot, peut-être dire qu'au moment où Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris, la flèche n'existe pas.
Oui, ça c'est vrai. Elle est arrivée plus tard. Alors, Nicolas, coup de cœur culturel également.
Oui, alors moi j'avais pas beaucoup d'idées, j'avais envie de vous dire, cet été n'achetez pas d'iPhone SE ni de Samsung, achetez Joseph Kessel dans la Pléiade, ça coûte beaucoup moins cher et ça vous amènera beaucoup plus loin. C'est pas géolocalisé, mais vous allez faire le tour du monde avec lui. Je crois que c'est un écrivain qui a été longtemps catalogué dans l'écrivain de voyage, l'écrivain à succès, donc assez peu considéré. Son entrée dans la Pléiade, c'est un vrai événement. Deux tomes qui viennent de sortir avec un superbe cahier carnet spécial dans la Pléiade. Vraiment, c'est un peu cher la Pléiade, mais achetez ça, mettez ça dans votre bibliothèque, laissez-le sur la table basse pour vos enfants. C'est vraiment un tour du monde du XXe siècle. C'est une vie absolument formidable. C'est un écrivain génial. Il y a de quoi faire votre été n'importe où vous soyez dans le monde ou en France. Vraiment, profitez-en. Joseph Kessel, ça vaut tous les
Vous pouvez acheter en même temps, qui vient de paraître dans une édition, nouvelle édition, sa biographie par Yves Courrière, qui est absolument remarquable et qui est même aussi passionnante, si ce n'est plus que ses romans. Voilà.
Et rappelez que Joseph Kessel est le parolier du chant des partisans.
Absolument, absolument. Arnaud Benedetti, votre coup de gueule.
Bah, c'est plutôt un coup de gueule. Enfin, en tout cas, c'est un étonnement.
Une interrogation.
Suite au remaniement, c'est qu'il n'y a pas de ministère du tourisme. Il n'y a pas de ministère de plein exercice. Il n'y a pas de ministère délégué. Alors, on sait qu'on attend, en principe, la nomination d'un train de secrétaire d'État. Mais ça traduit deux choses. Ça traduit d'abord, finalement, l'espèce de condescendance des pouvoirs publics en France, et qui ne date pas d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui est très ancienne vis-à-vis de cette activité, qui est le tourisme, qui est une activité économique dont je rappelle qu'elle constitue près de 8% du PIB, qu'elle fait vivre en emploi direct et indirect plus de 2 millions de personnes. Et surtout qu'elle fait partie des secteurs qui ont été les plus touchés, et c'est le moins qu'on puisse dire, de plein fouet par la crise sanitaire. Donc on peut s'étonner qu'à l'occasion de ce remaniement, qui est un remaniement qui veut s'inscrire notamment dans la logique d'une préparation des conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire, il n'y ait pas de ministère, voire de ministère délégué du tourisme. Je trouve cela parfaitement regrettable. Alors je sais qu'il y a un plan de relance qui a été annoncé de 18 milliards d'euros. On attend de voir d'ailleurs ce qu'il y aura dans ces 18 milliards d'euros, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui ont été actées, le chômage partiel, les aides aux entreprises. Mais c'est quand même un angle mort de ce remaniement, et plus largement, moi je considère que le sujet du tourisme, encore une fois, qui constitue une activité économique extrêmement importante, reste reste un angle mort de la plupart des politiques publiques qui sont conduites en France depuis une trentaine d'années. Je rajouterai un dernier point, c'est que le tourisme, c'est pas seulement une activité économique, c'est une activité culturelle, c'est une activité sociale et c'est un levier extrêmement important à l'époque où on parle des territoires, un levier extrêmement important en matière d'aménagement du territoire.
Non, vous avez raison, c'est un véritable angle mort. Une réaction les uns et les autres là-dessus?
Bah, peut-être, on ne pense pas qu'effectivement derrière le tourisme, derrière naturellement l'image des cartes postales, c'est le cas de le dire, il y a une activité économique, il y a des gens qui font plusieurs travaux tout au long de l'année, parce que je pense aussi par exemple aux stations de ski où il y a des personnes que pendant l'hiver font les maîtres de ski et l'été ils sont par exemple des agriculteurs. Un certain type de tourisme contribue d'ailleurs aussi au maintien du travail et de l'économie au niveau local.
Je rajouterai un point. Le patron de l'UMI, qui est la fédération des cafés, des restaurants et des hôtels, vient tout juste de donner un entretien à notre revue, la revue politique et parlementaire, où il précise que on s'attend à ce que dans les 12 mois qui viennent, il y ait près de 20% des établissements qui relèvent de ce secteur qui disparaissent. Donc vraiment, on est face à une urgence économique et sociale qui est considérable. Et encore une fois, c'est étonnant qu'il n'y ait pas aujourd'hui, à ce stade, un ministère.
Alors, il y aura certainement un secrétaire d'État.
Oui, vraisemblablement.
Il y avait Jean-Baptiste Lemoine, c'est vrai que ce n'est pas un signal.
C'est pas le signal d'une prise de conscience, en l'occurrence.
Oui. Najwa, un mot.
Mais c'est vrai qu'on peut le regretter. On aurait aimé un ministère délégué à cette question-là. Comme vous le rappeliez justement, c'est quand même 3 millions d'emplois, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, il y a eu ce plan massif de 18 milliards qui a été annoncé. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu penser que ce nouveau gouvernement allait se doter d'un ministère au moins délégué sur cette question-là. Et sur ce secteur, qui, je le rappelle, est extrêmement important pour notre économie. Et au niveau, vous le rappeliez aussi justement, culturel.
Oui. Allez, on marque une petite pause. On aura le coup de gueule de Matteo Ghisalberti et on parlera de l'ensauvagement peut-être de la France, ras-le-bol des racailles. Le plan retraite doit-il être remis sur la table? On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Alors Matteo Ghisalberti, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité?
Le fait que le ministre de l'Intérieur allemand, Sigmar Horstenfer, a dit que l'Europe ne doit pas abandonner l'Italie dans cette nouvelle crise migratoire qui s'annonce, qui va s'abattre sur l'Europe, mais en particulier, encore une fois, sur l'Italie et peut-être aussi sur Malte et les autres pays du sud de l'Europe. C'est un coup de gueule parce que, je dirais à la bonne heure déjà, c'est pas parce que maintenant l'Allemagne a pris la présidence tournante de l'Union européenne pendant ce prochain 6 mois qu'il faut s'occuper seulement maintenant de ce problème. Que d'ailleurs, en ce moment, il voyage aussi en parallèle avec le problème du Covid, parce que je mets les mains en avant. Ce n'est pas une discrimination, mais les structures sanitaires italiennes ont constaté que parmi les migrants clandestins qui arrivaient sur les navires des ONG, entre autres aussi françaises, il y avait plusieurs cas de Covid et que donc ces personnes devaient être mises en quarantaine sur des navires qui ne pouvaient pas, desquels ils ne pouvaient pas sortir. Et c'est intéressant de voir que tout ce qui avait été décrié l'année passée comme un acte raciste, inhumain et inacceptable quand il y avait Monsieur Salvini dans le gouvernement italien. Maintenant, ça passe parce qu'il y a effectivement des urgences sanitaires, mais encore une fois, il y a les ONG, parmi lesquelles SOS Méditerranée, qui voudrait dicter la loi à un État souverain et qui, honnêtement, on en a un peu marre. Moi, je parle en ce cas en tant que citoyen italien, mais excusez-moi, il y a des considérations de sécurité et sanitaire, parce que l'Italie a payé un lourd tribut au Covid. Et là, on veut faire comme si rien n'était. Et on a déposé d'ailleurs des personnes qui ont été accueillies dans la mer. Et on sait toujours qu'il y a aussi un trafic d'êtres humains, que la magistrature italienne d'ailleurs sur laquelle elle est en train d'enquêter. Voilà, on dépose des personnes clandestines malades aussi dans des lieux extrêmement touristiques comme Noto, qui est une ville très belle, la capitale du baroque sicilien.
Donc abandonnée par l'Europe, quoi.
Complètement. Et encore une fois, cette histoire, cette crise migratoire qui va arriver, parce qu'en Libye, il y a une pourrière, démontre qu'en Europe et que chaque pays a le droit de gérer ses frontières. Il peut les fermer. Parce qu'on a vu même en France que quand il y avait les Parisiens qui se déplaçaient en début du confinement, il y avait même des communes qui auraient voulu lever des murs. Absolument. Pour bloquer l'arrivée c'est des frontières et on peut les utiliser.
Absolument. Merci de ce rappel. Moi, deux choses qui ont retenu mon attention. Je voulais rendre un hommage à un monsieur qui s'appelle Serge Maître, que vous connaissez peut-être, qui était souvent dans les médias, qui défendait les usagers des banques et qui est décédé. C'est quelqu'un qui était au service des consommateurs. Et voilà, je voulais lui rendre un hommage parce que je l'ai reçu à de nombreuses reprises. Beaucoup de gens, d'ailleurs, dans les différents médias l'ont reçu. Et c'est une information qui est passée relativement inaperçue. Et puis, cette information de Lyon Capital, le maire de Lyon qui refuserait, je le mets au conditionnel, mais il aurait refusé le passage de la patrouille de France dans le ciel lyonnais le 13 juillet. Nouveau maire écologiste. Vous avez vu passer ça aussi, les uns et les autres ?
Non,
c'est lui qui veut que effectivement Lyon soit également le plus piétonnier possible, etc. Donc
c'est encore l'idéologie écologiste ou l'écologisme idéologique punitif qui par contre oublie par exemple de
alors il dit alors il dit que c'est pour éviter tout attroupement.
C'est dommage, oui, c'est tellement joli la patrouille de France.
Oui, oui, je pense qu'on ne s'attroupe pas pour regarder, contrairement au feu d'artifice, hein, ça peut-être nous amener sur
alors,
le sujet
si c'est des raisons,
du coronavirus.
Si ce sont des raisons sanitaires, bon, après tout, elles peuvent toujours se justifier, sauf que le problème, c'est que, si vous voulez, il faut toujours réfléchir à ce que vous êtes quand vous êtes un émetteur. Et évidemment, un émetteur vert peut être considéré, lorsqu'il prend ce type de décision et qu'il était en responsabilité, comme finalement l'expression d'une idéologie qui serait plus ou moins anti-militariste. Donc on voit que là, il y a un petit problème au moins à minima de communication, bien évidemment, si cette décision était confirmée.
Oui, mais c'est effectivement le titre tel qu'il est, c'est-à-dire le maire écologiste qui interdit la patrouille de France, tout de suite, comme vous le dites, l'émetteur fait penser que c'est pour des raisons
écologiques. Est-ce qu'un maire a le droit d'interdire l'espace aérien de sa commune ?
Mathéo, vous venez de nous dire qu'il avait le droit de fermer sa ville. Donc,
Pardon ?
Vous venez de nous dire qu'il avait le droit de fermer sa ville en cas d'épidémie sanitaire.
Non, mais si l'argument, c'est des raisons. Si l'argument, c'est des raisons en effet sanitaires, il peut, mais il voit ça avec le préfet. Vous voyez, il n'est pas seul à décider de cela.
Le préfet, parce que sinon, Lyon est devenu une république à l'intérieur de la France. Donc, on peut fermer les frontières aussi de Lyon. Pourquoi pas ?
Oui, on peut aussi. On peut aussi. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et on va parler de ces différentes agressions, voire meurtres dans certains cas qui font que la violence est partout, que ce hashtag qui est en train de monter, la racaille, tue un petit peu partout sur les réseaux sociaux et qui dit que la peur doit changer de camp. On y revient dans un instant avec vous. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, je voulais qu'on revienne sur l'agression, le meurtre de ce chauffeur de bus, ce chauffeur de bus qui est en état de mort cérébrale. Philippe, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre sont à Dijon pour venir voir la ville après les violences qui ont eu lieu le mois dernier. Il semblerait quand même que un certain nombre de ces violences, en tout cas quand on parle des agresseurs du chauffeur de bus, auraient peut-être pu être évitées s'il y avait eu une justice plus sévère. Je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui la justice est suffisamment sévère avec tous ces gens? Je voyais encore un autre fait divers abominable d'un homme de 85 ans qui a été cambriolé, attaché, martyrisé et dont l'agresseur avait été condamné déjà pour meurtre et faisait l'objet de 19 condamnations. Voilà, on s'interroge tout de même sur ces faits divers qui ont toujours existé, mais qui sont peut-être de plus en plus violents aujourd'hui. Qui veut réagir ? Arnaud Benedetti ?
Écoutez, moi je crois que le problème c'est que il y a toujours eu ce débat entre d'un côté la police et la justice. La police qui arrête et la justice qui sanctionnerait insuffisamment. La vérité, c'est que, d'abord, ce qui se passe très souvent, c'est que la justice peut sanctionner, mais que les peines ne sont pas appliquées. Alors, il faut s'interroger peut-être sur les raisons pour lesquelles elles ne sont pas appliquées. Notamment, c'est lié, entre autres, au système carcéral, dont on sait qu'il est globalement insuffisant et voire déficient
sur
la surpopulation qui
ensuite
il y a un problème
Najwa, oui, on va continuer. Je sais pas ce qui s'est passé chez Najwa, pardon. Allez-y, oui, vous disiez, pardon, Arnaud Benedetti.
Oui, il y a un deuxième élément parfois, qui est mis notamment en avant par un certain nombre de syndicats de policiers qui considèrent que la justice, que l'appareil judiciaire ne prononce pas les peines qui sont nécessaires pour sanctionner à leur juste niveau les délinquants qui se font les auteurs de ce type de délits. Alors, tout cas, ce qui est sûr, et ça c'est le point à mon avis essentiel et la traduction politique, c'est que cette absence, cette perception d'absence de sanctions a des effets qui sont ravageurs dans l'opinion publique et participe finalement à la défiance qui existe aussi chez un grand nombre de nos concitoyens dans le fonctionnement même de l'appareil judiciaire.
Alors, il n'y a pas que l'appareil judiciaire, il y a aussi la police. Quand on voit que le défenseur des droits, Jacques Toubon, dit qu'il faut faire évoluer le maintien de l'ordre, j'écoutais Patrice Carteron ce matin qui expliquait quand même que la gendarme qui a été tuée, j'ai envie de dire même assassinée par ce chauffard, le chauffard a quand même franchi deux barrages de police sans qu'il n'y ait... aucun tir. Alors, qu'aurait-on dit s'ils avaient tiré? Mais il y a un moment, il y a quand même un problème aussi avec le comportement de la police qui aujourd'hui, alors je vais certainement en choquer plus d'un, mais n'est peut-être pas forcément, n'a peut-être pas forcément la marge de manœuvre suffisante pour arrêter des délinquants. Alors on va nous dire, oui, les gilets jaunes ont été matraqués, éborgnés, massacrés, et les délinquants ne sont pas arrêtés. Je pense que je vais faire réagir Nicolas Corato sur le sujet.
Oui, non, mais je suis pas loin d'être d'accord avec vous, Valérie. On est dans une société où l'ultra-violence est devenue très tendance. C'est même un phénomène culturel, d'une certaine manière, avant d'être un phénomène social. Moi, j'ai l'impression qu'on est rentré depuis quelques années, c'est pas nouveau, dans une société où l'ultra-violence a plutôt la cote, et que quand vous êtes ultra-violent, vous êtes quelqu'un de bien. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de la culture du viol, mais on pourrait parler de la culture de l'ultra-violence qui vient dans les films, dans les médias. Je veux dire, on est entouré par cette ultra-violence. Un mot sur la justice en France, elle n'est pas laxiste, loin de là d'ailleurs, on a une justice qui punit énormément, avec des peines très importantes. Le problème de la justice en France, c'est qu'elle est lente pour celui qui attend son procès, qu'il soit victime ou prévenu, hein, celui qui l'attend en prison. Je rappelle que 80% des détenus en France sont des gens qui sont en détention provisoire, qui attendent d'être jugés. Voilà. Et elle est lente également pour effectivement les victimes qui attendent réparation. Le vrai problème, en fait, et on le voit dans ce qui s'est passé avec l'affaire du l'assassinat horrible du chauffeur de bus. Je parle d'assassinat parce que l'état de mort cérébrale, on est déjà très avancé. Ouais. C'est le suivi après les peines. Des peines, elles ont été prononcées, elles ont été en partie appliquées. Oui. Qu'il y ait des remises de peine, à la limite, c'est normal, ça fait partie du système judiciaire. Mais le problème, c'est le suivi après. Qu'est-ce qu'on fait de ces délinquants une fois qu'ils sont sortis en prison? On n'en fait rien. On les laisse revenir dans leur écosystème. On les laisse redevenir des caïds renforcés par la prison. On a quelques emplois fonctionnaires de suivi après les peines, mais absolument rien. Enfin, je veux dire, c'est là où il faut qu'on travaille. C'est là où il faut qu'on arrête de laisser quand ressortir de prison, renforcer et revenir à la tête des squads qui vont semer la violence et la terreur dans les villes. C'est ça le sujet sur lequel on doit investir. Qu'est-ce qu'on fait après la peine? Qu'est-ce qu'on fait après l'exécution de la peine? Il y a un vrai sujet. Alors on va me dire, oui, c'est de l'accompagnement social. Oui, c'est de l'accompagnement social. Parce qu'on est sur un phénomène social qui nous dépasse et qui dépasse tous les secteurs de la société. Il faut investir dans le suivi après les peines.
Ouais. Oui, mais vous voyez ce fait divers dont je vous parle, de cet homme qui a été agressé, ça s'est passé au mois de mai. Son agresseur, donc je rappelle, hein, un homme de 85 ans, il l'a tabassé et il a déféqué sur lui. Il a été étalé ses excréments sur la tête. Il a été condamné 19 fois, dont une fois pour assassinat. Voilà, donc c'est vrai que c'est incompréhensible pour les citoyens que
n'oublions pas que
oui. Non, pardon, on vous écoute. Pardon, je me suis trompé. Mathéo Ghisalberti.
Je suis arrêté.
non, allez-y, vous êtes bien. Oui.
Que nous sommes en train de parler des zones de non-droit qui font partie nominalement de la République française, mais qui, on le sait, enfin, on pose de problèmes parce que il n'y a pas seulement un problème de suivi et de ce qui se passe après la prison, disons la casse-prison. Il y a aussi un problème de accès des forces de l'ordre, de l'exercice de l'ordre et de la justice dans ces territoires. Malheureusement, certaines forces politiques ont fait de cette situation en réalité leur bassin électoral et donc ont justifié tout un tas de comportements antisociaux. Sous couvert de ne pas vouloir être raciste, discriminatoire, etc. Mais encore une fois, chose que j'ai dit toujours, un délinquant, si on l'appelle délinquant, ce n'est pas une offense. Non. Voilà.
Juste un mot quand même pour notre amie Najwa El Haïté qui s'est fait agresser en direct pendant cette émission. Un homme a cassé sa porte et s'est jeté sur elle, a embarqué son ordinateur et son sac.
Elle va bien ?
Je ne sais pas, on me communique, je vous donnerai des informations quand j'en aurai. Oui, elle va bien, mais c'est absolument sidérant. Enfin, c'est dans le fil droit, oui, elle va bien, mais je pense qu'elle doit être extrêmement choquée. Donc oui, on entend ce que vous dites, Mathéo, sur ça, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Arnaud Benedetti.
Non, mais le problème, si vous voulez, il y a deux phénomènes. Il y a d'abord aujourd'hui le fait que cette violence, le phénomène de violence, historiquement, il a toujours existé. Il n'est pas nouveau. Sauf que il y a deux phénomènes, à mon sens, qui viennent aujourd'hui considérablement changer la donne. Le premier, c'est que cette violence, elle est de plus en plus visible, ne serait-ce que, et là je rejoins ce que disait Nicolas Corato, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Vous voyez parfois des délinquants qui n'hésitent pas à filmer des actes de violence dont ils sont les auteurs. Donc il y a une forme de valorisation dans un certain nombre de communautés, dans un certain nombre de structures humaines de ces phénomènes de violence qui deviennent une façon de se mettre en scène. Et le deuxième aspect, c'est que cette violence, elle est extrêmement concentrée dans un certain nombre de zones, ce qu'on a appelé les territoires perdus de la de la République, où là, en effet, s'installe l'idée que l'État a abandonné sa mission, et sa mission, qui est sa mission première, quasiment anthropologique, qui est d'assurer l'ordre public, d'assurer la sécurité. Donc, finalement, ce sont ces deux éléments aujourd'hui qui transforment la relation, même des opinions publiques, à cette question qui est devenue une question essentielle, qui est celle de la violence. Et pas seulement des incivilités, parce que quand j'entends, moi, le ministre délégué au transport parler oui. d'incivilité pour Bien caractériser, ou alors c'est certainement une maladresse d'expression de sa part, hein, ça peut arriver oui. à tout un chacun, mais en l'occurrence, on est bien au-delà de l'incivilité. Et l'incivilité est, disons, un terreau qui prépare très souvent, malheureusement, on le sait très bien, des formes de violence qui sont beaucoup plus graves.
Mais on a aujourd'hui un garde des Sceaux qui dit qu'il faut vider les prisons.
Oui, alors, ce qui est un message qui, d'ailleurs, est problématique, que l'on peut comprendre de son point de vue au regard de sa propre trajectoire, lui, d'avocat pénaliste. Il y a certainement un problème de surpopulation carcérale, ça c'est une évidence, il a été largement mis en avant, mais je ne suis pas sûr que ce type de discours soit un discours qui soit aujourd'hui en mesure de rassurer les Françaises et les Français.
Alors deux choses, Mickaël, parce que sur les réseaux, les gens vous parlent comme si vous étiez leur copine et sont extrêmement agressifs. Mickaël, vous n'essayez pas d'avoir des nouvelles de votre intervenante, vous continuez comme si rien n'était arrivé. Si je me renseigne, je suis en liaison par téléphone, donc vos leçons de morale, vous les gardez pour vous. Oui, on va arrêter l'émission. Non, on ne va pas arrêter l'émission, je suis désolée, on s'en occupe. Donc arrêtez de prêter des intentions aux gens qui n'existent pas. Pardon de cette intervention. Romain nous dit pourquoi ne construisons-nous pas de nouvelles prisons modernes et spacieuses avec davantage de personnel pénitentiaire.
Alors, il n'y a pas d'argent.
C'est un problème de moyens.
Oui, ben c'est un problème. C'est pas un problème de moyens, c'est davantage un problème d'arbitrage politique. Qui sont aujourd'hui les hommes politiques capables de venir vers leurs électeurs en disant je vais investir dans les prisons? Alors, ce sujet-là n'a jamais été traité politiquement parce que c'est pas populaire.
Bah, il a été traité, Nicolas, il a été traité, souvenons-nous, il avait été traité dans les années 80, souvenez-vous. Oui. Entre 86 et 88, il y avait même l'idée de faire des sortes de concessions de services publics, si mes souvenirs sont bons, qui délèguent à des opérateurs privés la gestion des prisons.
Ça existe en partie, il y a des délégations sur certaines maisons d'arrêt. Mais on n'a jamais réussi à faire un grand plan de prison en France, tout simplement parce que voilà, personne ne veut prendre ce sujet qui est nécessairement impopulaire. Aller dire qu'on va améliorer le quotidien des détenus, ce n'est pas le sujet prioritaire des électeurs.
Mais on sent qu'il n'y a pas de discours, en tout cas pour l'instant, volontariste pour faire évoluer les choses. Et on a encore une fois, je rappelle, ça fait partie de nos sujets, Jacques Toubon qui veut faire évoluer le maintien de l'ordre. Hier, il y a eu également dans le 17e ou dans le 18e un homme qui s'est présenté avec deux couteaux. Les policiers ont essayé de l'immobiliser avec un taser et ça n'a rien donné, on dit les témoins qui étaient là. Donc comment, oui.
Si je peux me permettre, il ne faut pas oublier que à chaque fois que la police fait un certain type d'interpellation et d'intervention, elle est considérée violente, raciste, discriminatoire, etc. Alors que elle a le soutien du pouvoir politique quand elle, comme vous le disiez tout à l'heure, elle tape sur des citoyens qui manifestent. Et en alimentant aussi la dégénération de la situation. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est une curiosité statistique si toujours certains types de crimes se produisent dans un certain périmètre, dans un certain, chez un certain profil d'auteur. C'est absolument pas pour discriminer, mais on les a sous les yeux. Et encore une fois, si l'auteur de ces crimes est dans certains cases que personne ne veut indiquer, Il risque beaucoup moins que d'autres citoyens.
Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est assez bouleversés parce que pendant l'émission, donc Najwa El Haïté, qui est vice-présidente de Territoire de Progrès, s'est fait agresser chez elle. On était en train de parler des racailles et une racaille, elle nous a envoyé un message en disant on parlait des racailles et il y en a une qui a défoncé ma porte à coups de marteau et à coups de pied. Elle va bien, mais elle attend la police et elle est effectivement choquée, donc on vous donnera des nouvelles. On se tient au courant, mais c'est une provocation, c'est insupportable et inqualifiable ce qui est arrivé. Et on y reviendra bien évidemment dès qu'on aura plus d'informations, même chez André Berkoff. Et oui, the show must go on, contrairement à ce que disent les auditeurs, certains auditeurs, on doit avancer. On ne peut pas mettre du blanc à l'antenne, on ne peut pas mettre de la musique. On prend des nouvelles de Najwa, elle nous a tout de suite prévenus. Donc elle va bien, elle est choquée, mais elle va bien. Donc on continue et on va changer complètement de sujet. On va parler de cette réforme des retraites que le Premier ministre a décidé de remettre sur le tapis. Il a reçu les syndicats et le patronat pour évoquer cette sensible question des retraites. Est-ce que politiquement, sans rentrer sur le fond, c'est une chose habile, Arnaud Benedetti, que de reparler de ce sujet qui avait quand même mobilisé beaucoup de gens dans la rue?
Oui, alors on va peut-être justement voir s'il y a une méthode Castex par rapport à ce que fut la méthode Edouard Philippe sur ce sujet. Souvenez-vous qu'avant la crise sanitaire, Edouard Philippe avait été considéré comme un facteur de blocage, notamment dans les négociations avec les syndicats autour de la question de l'âge pivot. Ça sera difficile quand même pour le Premier ministre. On comprend que pour Emmanuel Macron, il s'agit de montrer que sur les grands engagements qui ont été les siens, notamment cet engagement de la réforme des retraites, il veut tenir le cap. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation que l'on va traverser, que l'on commence à traverser, est très différente de la situation dans laquelle nous nous retrouvions avant la crise. Donc, politiquement, il y a manifestement, en tout cas, une prise de risque de remettre ce sujet à l'agenda politique. Encore une fois, ce qui sera très intéressant, c'est de savoir, par exemple, si sur la question, qui a été une des questions qui a crispé notamment les syndicats et notamment les plus réformistes, comme la CFDT, l'âge pivot, est-ce qu'il va y avoir une évolution de l'exécutif sur cette question? S'il y avait évolution, ça voudrait dire quand même quelque chose.
Mais est-ce qu'il a raison de le faire maintenant? Est-ce que l'urgence, c'est de relancer cette réforme des retraites quand on sait qu'on va affronter une crise économique terrible, et en particulier en ce qui concerne l'emploi? Nicolas Corato.
Oui, vous avez raison, Valérie. Ce gouvernement donne l'impression d'être complètement hors sol, comme si la crise du Covid n'avait pas existé. On reprend le dossier tel qu'on l'a laissé avant le confinement. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé dans ce pays. On attend de l'État qu'il remette l'hôpital en marche. On attend de l'État, on en a beaucoup parlé, qu'il reprenne en main la souveraineté économique et numérique du pays. On attend une transition écologique. Et finalement, le premier acte de ce gouvernement, c'est de revenir avec une réforme qui, excusez-moi, n'a aucun sens pour les Français. Qu'est-ce qu'on va dire aux Français? Qu'il va falloir travailler plus longtemps, mais du travail, il n'y en a plus. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un déficit de 30 milliards, mais les recettes de la retraite chaque année, c'est 300 milliards d'euros. Et on n'est pas, en France, à un déficit près aujourd'hui. Ça paraît complètement décalé avec l'état du pays, avec ce que pensent les Français. Et les Français, ils ont peut-être juste envie qu'on les laisse tranquilles. C'est-à-dire que ces réformes qui plaisent au président de la République parce qu'elles lui permettent de cocher une case, sont-elles vraiment utiles à ce moment précis de la vie du pays.
Oui, mais Nicolas, je partage bien évidemment ce que vous dites sur le fond, sauf que il faut prendre en compte le fait qu'il y a vraisemblablement un calcul politique de la part d'Emmanuel Macron.
C'est bien ce que je dénonce.
Et oui, le calcul politique d'Emmanuel Macron, c'est un calcul. Emmanuel Macron, il prépare actuellement sa réélection. En tout cas, il essaye de préparer les conditions de sa réélection. Et on voit bien que ce qui est en train de se passer, c'est qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est en train de changer d'électorat. C'est ça, la véritable réinvention, si je puis dire, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est à la recherche d'un nouvel électorat. Et l'électorat dont il a absolument besoin pour se faire réélire en 2022, c'est l'électorat de centre-droit. Et cet électorat de centre-droit, il est, de fait, assez attaché à cette réforme. Donc, il y a derrière cette remise sur le métier de la réforme de la retraite, la volonté d'arrimer toujours plus fort cet électorat, parce qu'il est la condition véritable d'une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a brûlé ses vaisseaux à gauche. Donc aujourd'hui, s'il va avoir une petite chance de l'emporter en 2022, il faut qu'il s'arrime cet électorat.
Mais vous vous rendez compte de l'image que ça donne de ce président obnubilé par la réélection, alors que le pays
c'est une crise historique. Nicolas, on est bien d'accord.
C'est très dangereux d'ailleurs.
Mais oui, mais.
Ce n'est pas seulement ce président qui est obnubilé par l'idée de se faire réélire, parce que c'est un peu la Ve République qui le veut. À part Hollande, beaucoup de présidents précédents ont voulu se faire réélire. Ils pensaient qu'à ça, la moitié de leur mandat, surtout quand ce mandat est passé de 7 à 5 ans. Ce que je pense, je suis assez d'accord avec Arnaud Benedetti, tout simplement parce que effectivement, l'électorat des droites est un peu plus stable, entre guillemets, surtout, on a vu que si la droite avait remporté les élections présidentielles, de toute façon, on aurait eu une réforme des retraites, parce que c'était aussi dans leur programme.
Non, vous écoutez.
Vu qu'à gauche, la situation est beaucoup plus instable.
Qu'on vous écoutait.
La situation à gauche est plus instable. D'ailleurs, aussi, les membres de l'aile gauche de la République en marche quittent les navires. Je pense que pour le président, c'est nécessaire, effectivement, de stabiliser un petit peu ses troupes. Et par contre, la seule chose qu'il peut faire, chose qu'il entend de faire approuver en toute urgence au Parlement, c'est de donner des gages à la gauche avec des réformes sociétales très importantes et très qui vont ainsi, comment dire, toucher profondément la société, comme celle sur la bioéthique. Mmh. Et il le fait d'une façon comme ça, un peu low cost, parce que il faudra que la gauche soit un peu rassurée sur ses valeurs, sur ses discours, etc.
Alors, on a Najwa, elle a été avec nous. Najwa, vous êtes en ligne.
Oui, bonjour. Vraiment désolée.
Bah oui. Mais vous n'allez pas être
De dingue. Ouais. Voilà, j'ai un jeune, puisque j'ai reconnu, je vois à peu près quel âge il a, qui a défoncé ma porte, qui était fermée, qui a défoncé ma porte à coups de marteau et à coups de pied. Ça a été d'une violence inouïe. Il m'a volé mon portable, il m'a volé mon sac, on parlait de racaille, et ben, il y a une racaille qui est rentrée chez moi, voilà.
Mais comment c'est possible, Najwa?
Non, mais c'est hallucinant. Enfin, je peux vous dire que ma porte était bien fermée, d'ailleurs, à clé. Et j'entendais de manière intempestive quelqu'un qui sonnait. J'ai dit, j'attends personne, je vais pas ouvrir. En plus, j'étais à votre émission. Et j'entends des coups de marteau et des coups de pied, mais d'une violence inouïe. Et là, je vois un colosse rentrer chez moi. Voler mon ordinateur, donc vous avez pu le constater, ça a été brutal, puisqu'il a fermé l'ordi, et il est voilà, et voler mon sac, et ça s'est fait en une fraction de seconde, quoi. Donc quand on dit en France, oui, il y a des racailles, il y a bien des racailles, et là je peux vous dire que je suis remontée et j'attends la police avec impatience, hein, parce que ce monsieur, je vais le reconnaître, j'ai bien regardé son visage, enfin je le reconnaîtrai.
Oui, ça a été, courage, ça a été d'une rapidité. Oui, on est avec vous évidemment.
Merci. Vous, sent, pour...
vous êtes. C'est absolument. Mais il pensait que vous n'étiez. Est-ce que ça peut avoir un lien avec ce que vous étiez en train de dire ou pas du tout? Vous pensez que c'est un hasard?
Pas du tout, parce total. Que il était en train de sonner. Moi, je pensais que c'était une personne qui s'était trompée.
Donc,
comme
il a cru qu'il y avait personne en fait.
Ah non, je pense qu'il a su qu'il y avait quelqu'un. Je peux vous le dire, hein, parce que le son de l'émission était assez fort pour qu'il puisse entendre, puisque j'étais à côté de la porte, il puisse entendre qu'il y avait bien quelqu'un à la maison. Et ça l'a pas effrayé. Hein. Et je vous dis, ça a été d'une violence inouïe. Hein.
Et l'ordinateur était devant vous.
Oui, et l'ordinateur était devant vous. Il était devant moi, et donc il a volé l'ordi, il a volé mon sac sur la table, et puis il s'est enfoui. Et en prenant du recul, je me suis dit, si j'avais ouvert la porte, je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait. C'est un colosse, il m'aurait frappé pour pouvoir rentrer et cambrioler ce qu'il fallait cambrioler. C'est hallucinant, quoi.
C'est incroyable. Saisissant. Nicolas, vous vouliez dire un mot?
De souhaiter plein de courage à Najwa.
Oui, plein de courage à Najwa. Écoutez,
et
les policiers ne sont toujours pas arrivés?
C'est insupportable.
Non, les policiers ne sont toujours pas arrivés, non. Donc là, je suis en train de faire opposition
Sur les cartes et tout ce qui va avec.
Il a mon passeport, il a mes pièces d'identité, voilà. Bon.
Bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage. Nous, on se parle tout de suite après. Et les auditeurs
beaucoup.
Vous soutiennent également. Et c'est vrai qu'on est extrêmement choqués. On a eu la preuve, comme vous le disiez, que les racailles sont bien là, impunis, avec un sentiment d'impunité. C'est ça, un sentiment d'impunité absolument effroyable. Merci à tous les quatre.
Merci à vous.
Et on vous appelle. Merci à tous les quatre. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio, d'avoir été là. Merci à Juliette Rioufol qui prépare cette émission, ainsi que à notre réalisateur Jamel qui est là, fidèle au poste et que j'apprécie énormément. Voilà, je lui dis en direct, Sud Radio, c'est une famille et vous serez en bonne compagnie avec Vincent Ferniaud pour le 10h midi. Prenez soin de vous, reposez-vous et écoutez Sud Radio. Très bonne journée.